Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is Watchman Alarm Phone.
Hello, my friend. This is Alarm Phone.
How are you, my friend?
I hear
How
you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom?
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser, rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Salut à toutes et tous, et bienvenue dans la deuxième édition de Chronique amère. Dans cette chronique mensuelle, on parle des politiques des frontières en Méditerranée et leurs conséquences. On en parle toujours depuis Alarm Phone. Alarm Phone, c'est un réseau d'activistes des deux côtés de la Méditerranée. Et parmi nous, il y a une majorité de personnes qui s'identifient comme des femmes ou dans des identités autres que celles d'hommes cisgenres. Les rapports de pouvoir sexistes traversent notre réseau, comme dans tous les espaces sociaux, comme dans tous les espaces militants. Il n'y a pas de raison pour qu'Alarm Phone en soit préservé. Alors chez nous, on en parle. On accueille ce débat, par exemple lors d'ateliers en non-mixité femmes et personnes LGBTQIA pendant nos réunions générales. À l'occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, cette chronique se fixe comme projet de casser l'image que vous avez peut-être de la personne en mouvement. Quand on imagine cette personne qui migre, on voit en général un jeune, en général noir, et toujours un homme. En fait, non, cette personne est une fois sur deux une femme. Pour permettre d'identifier une embarcation en Méditerranée, une des premières questions qu'on pose aux personnes sur le bateau, c'est « Combien de femmes à bord ?» Et parfois, les femmes représentent la moitié, ou même la majorité des personnes présentes à bord. Aujourd'hui, dans Chronique amère, on a voulu parler de leurs raisons, des violences de leurs conditions, de leurs stratégies de résistance. Parce qu'elles existent avec force, mais qu'elles sont souvent invisibles des discours médiatiques et politiques. Alors, pour cette émission, on a eu envie de discuter avec une camarade Alarm Phone au sud de la Méditerranée. On a pensé à Radi, activiste à Tanger, au Maroc. Mais se rencarder avec Radi pour une interview, c'était pas simple.
Salut Leïla, je m'excuse beaucoup, parce que je t'avais dit que j'ai réunion après midi, on doit rencontrer avec un gars parce qu'on doit écrire un rapport pour le 8 mars qu'on doit vous envoyer tous.
Salut Leïla, hier aussi, comme tu vois, nous, il y avait des arrestations au niveau de la Médina ici, des photos, des images. Je suis partie des lieux qu'ils ramassent des Africains dans leurs maisons en train de les déloger. C'est là-bas que je suis partie hier pour prendre des images, quoi. En fait, je suis quittée là-bas parce que la police les a fait tous sortir et les a refoulés à la sortie.
Entre des réunions de préparation du 8 mars et du monitoring de rafles à la Médina de Tanger, Radi a finalement trouvé un peu de temps pour nous parler d'elle et de son engagement dans Alarm Phone.
Je m'appelle Radi Sis, j'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Je suis quittée au Sénégal en 2015. Je suis passée par la voie terrestre et je suis dans l'organisation depuis 2015. Puis intégrée 2015, il y avait des frères sénégalais que j'avais le problème de logement là où je vais dormir, j'ai croisé avec un frère qui s'appelle Sidi. Et il m'a mis contact que j'ai trouvé dans la maison des collectivores avec chaque jour. Du coup, c'était en Europe là-bas, ils sont venus et j'ai vu leur travail. Ça m'a plu, j'ai dit je vais m'intégrer. C'est comme ça que je suis intégré dans le groupe. Ouais. Mon travail consiste à rencontrer des migrants, essayer de voir leurs problèmes et aussi de distribuer le numéro d'alarme pour les expliquer comment le travail ça se fait, pour les dire que le numéro d'alarme, c'est pas un numéro, c'est un numéro pour vous assister pendant votre sauvetage. Et après les gardes-côtes, comment ça se passe? Je suis une femme qui lutte l'injustice qui se passe. Et c'est comme ça que je suis intégrée, comme je déteste de l'injustice qui se passe depuis. Voilà.
Dans cette émission, on a eu envie de vous parler d'un cas alarmphone, où les femmes sont au cœur de la traversée. Il se passe en mer Égée en juin 2020. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour vous parler de cette région de traversée, entre la Turquie et la Grèce.
Au sein de l'alarmphone, on a divisé la Méditerranée en trois zones. La Méditerranée centrale, la Méditerranée occidentale et la zone de la mer Égée. Donc cette zone comprend principalement les passages entre la Turquie et la Grèce. La Turquie a un point de passage très important avec des personnes qui arrivent d'Asie, de Moyen-Orient, mais aussi de pays africains, car ils arriveront à y obtenir des visas d'entrée plus facilement. L'arrivée en Grèce, donc en Europe, depuis la Turquie, peut se faire par la terre, en traversant la rivière Evros, au nord-ouest de la Turquie, ou par la mer. Le passage terrestre est très difficile car la zone de passage est étroite et très contrôlée. Donc la route qui est privilégiée jusqu'à présent est le passage en bateau vers des îles grecques proches de la Turquie. La distance moyenne de la traversée est de 20 km, qui peuvent être parcourus dans le meilleur des cas en 2 ou 3 heures. Dans la mer Égée, il y a du réseau téléphonique et l'accès à Internet quasiment tout le long de la traversée, ce qui rend les contacts beaucoup plus faciles.
Hello my friend, this is Watch the Med Alarm Phone.
Et malgré cette distance réduite, beaucoup trop de personnes continuent de perdre la vie pendant cette traversée. Parce que pour éviter d'être envoyé en Turquie, les personnes doivent prendre de plus en plus de risques. Partir de nuit, avec un mauvais temps, les vagues peuvent renverser leurs embarcations, qui sont souvent en mauvais état, les bateaux s'écrasent sur les rochers qu'ils ne peuvent pas voir, et en plus tout est mis en œuvre par les politiques européennes pour ne pas venir en aide aux bateaux en détresse, ce qui va causer la mort de nombreuses personnes. Le changement de gouvernement à l'été 2019 a empiré la situation. À partir de février 2020, l'alarmphone a été témoin de la montée des refoulements et de la violence de la part des gardes-côtes. Même une fois que les embarcations sont dans les eaux territoriales grecques, voire sur le sol grec, sur les îles directement, les autorités les renvoient aujourd'hui de façon quasi systématique en Turquie. Ces pratiques sont totalement illégales, puisque les autorités ne peuvent pas expulser des personnes avant qu'elles aient pu déposer une demande d'asile.
Juin 2020, 6h31 du matin. Alarmphone reçoit un appel de détresse d'un bateau au nord de Lesbos. 32 personnes à bord, 11 enfants, 10 hommes, 11 femmes. L'une d'elles est enceinte de 8 mois. Elles ont fui l'Afghanistan et nous disent au téléphone qu'elles veulent demander l'asile en Europe. Leur position GPS est alors 39,417 degrés nord,
26,180 degrés est. On alerte immédiatement les gardes-côtes grecs et on leur communique ces informations. « 7h14, les personnes à bord nous racontent que leur bateau a été attaqué à plusieurs reprises par un bateau grec qui leur a volé leur moteur et leur gazole, les a frappés à plusieurs reprises et les a menacés de les tuer. Les gardes-côtes turcs sont sur place. Ils n'interviennent pas. » On ne sait pas avec certitude qui est responsable de ces attaques ce jour-là. Mais ce qu'on sait, c'est que de plus en plus souvent, les gardes-côtes grecs, avec parfois l'aide de Frontex, attaquent des personnes qui sont dans les eaux territoriales grecques ou même qui sont arrivées sur les îles. Ils volent leur essence et leur moteur, font des vagues autour du bateau ou l'amènent directement dans les eaux turques pour que les gens soient ramenés en Turquie. Mais revenons au 13 juin 2020. Pendant les heures qui suivent, les personnes à bord nous envoient des photos documentant les attaques qu'elles subissent ainsi que de nouvelles positions GPS. La police grecque se rend sur place mais n'intervient pas non plus. 17h30, la femme enceinte de 8 mois commence à perdre les os. Elle a des contractions. On appelle les gardes-côtes, encore et encore. On les presse d'intervenir. Ils ne portent toujours pas secours aux gens, alors que leurs bateaux sont à côté du bateau en détresse. Ils quittent même les lieux au bout d'un moment. Jusqu'à 22h ce jour-là, nous sommes en communication continue avec les gens sur le bateau. Une des femmes sur le bateau a déjà vécu un accouchement. Elle prend donc en charge, du mieux qu'elle peut, la femme qui vient de perdre les os, avec l'aide d'une camarade sage-femme que nous appelons et qui donne des conseils par téléphone. Conseils ensuite traduits en farsi par une autre camarade de l'alarmephone, que nous appelons également. Jusqu'à 22h, nous faisons pression pour que les gens à bord soient sauvés. Jusqu'à 22h, les gens à bord continuent d'envoyer des photos, de s'occuper de leur compagne de voyage en travail d'accouchement. Malgré l'eau qui rentre dans le bateau, malgré les vagues qui augmentent et malgré la panique. À 22h, les personnes à bord sont secourues. Grâce à leur détermination d'abord, grâce aux photos et aux vidéos qu'elles ont envoyées pour témoigner des violences vécues en mer, grâce à la solidarité de femmes d'un côté et de l'autre du téléphone, grâce aussi au travail de monitoring de militantes sur place, en bateau ou avec des jumelles depuis la terre, qui documentent les situations de violence et de refoulement illégaux et les relaient sur les réseaux sociaux, grâce enfin à la pression médiatique et politique mise sur le gouvernement grec. Cette histoire illustre bien ce fait peu médiatisé et peu documenté. Les femmes se déplacent. Elles se déplacent depuis longtemps. Elles se déplacent massivement. Elles sont également actrices de leur migration, contrairement à ce que veulent nous faire croire les imaginaires sexistes. Les femmes exilées, quand elles sont représentées, le sont souvent comme étant à la charge d'un homme, un époux, un frère, un père, etc., qu'elles suivraient passivement. Or, les femmes sont de plus en plus nombreuses à migrer seules ou avec leur famille, en ayant leur propre projet. Un projet d'émancipation, une recherche de sécurité et de plus d'indépendance.
Les femmes migrent pour des raisons similaires à celles des hommes, mais elles fuient aussi à cause de persécutions ou discriminations qui leur sont propres. Elles fuient le manque d'opportunités en tant que femmes d'avoir accès aux études ou au travail, par exemple. Elles fuient aussi les violences sexuelles, l'excision, le mariage forcé, etc. Les femmes qui ne correspondent pas au rôle traditionnel de la femme, donc le fait de se marier, d'avoir des enfants, sont plus généralement sanctionnées socialement. En particulier les lesbiennes, les prostituées, les divorcées, les célibataires, parfois les veuves, aussi les féministes ou les femmes qui sont considérées comme trop indépendantes, trop rebelles, trop instruites, etc. Elles fuient pour pouvoir décider de leur corps et de leur avenir. Le fait de migrer est donc souvent un acte de rébellion et une recherche de plus de liberté. Les femmes qui fuient les violences et persécutions doivent aussi subir le long de leur parcours vers l'Europe de nouvelles violences. Sur le trajet, elles sont quasiment systématiquement victimes de violences, d'harcèlement, d'agressions sexuelles, que ce soit de la part des passeurs, des compagnons de route, des forces de l'ordre, des militaires, etc. Les femmes font également face à plus de risques lors des traversées en mer, parce qu'on leur attribue en général les places les plus dangereuses dans l'embarcation, parce qu'elles doivent s'occuper en plus d'elles-mêmes souvent des enfants. Elles peuvent aussi faire la traversée en étant enceintes, etc. Ce qui fait que proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses à mourir par noyade que les hommes.
J'ai animé il y a 2 ans un atelier de prévention, de réduction des risques en fait sur la sécurité en mer. C'était en non-mixité, c'était un atelier avec des femmes. Et en fait, ce qu'elles m'ont raconté à ce moment-là, c'était que d'une part, on leur disait, les passeurs leur disaient que si elles avaient leurs règles, elles ne pouvaient pas faire la traversée parce que ça allait attirer les requins. En fait, les passeurs, à chaque traversée, les raquettaient de leurs bijoux, en prétextant que les bijoux qu'elles portaient pouvaient attirer les radars, ce qui est un peu du grand n'importe quoi. Donc bon, après avoir échangé avec elles, on a conclu qu'il valait mieux qu'elles planquent leurs bijoux sur elles, qu'elles ne les montrent pas.
Énormément de femmes subsahariennes sont victimes de la traite des êtres humains. Elles sont prises en charge du pays de départ jusqu'au pays d'arrivée par des réseaux organisés dans le but de les exploiter. Elles seront alors forcées, à l'arrivée, à la prostitution ou au travail domestique. Les discours politiques européens se montrent virulents contre la traite des êtres humains, mais dans les faits, les politiques de contrôle des frontières favorisent les réseaux de traite. Le passage des frontières étant de plus en plus difficile, il est presque impossible pour une femme de migrer de façon autonome. Elles sont donc contraintes d'entrer dans un réseau de traite, alors même que leur objectif était de s'émanciper.
We are suffering here with the kids. We are sleeping outside. We are rejected. And then they are asking people money for what? We are not working. We are foreigners.
Ainsi, les femmes qui migrent doivent faire face à de nombreux obstacles. Des obstacles semés par les politiques européennes sur les parcours de migration des pays d'Afrique et du Moyen-Orient vers la forteresse européenne. Mais elles doivent aussi affronter des obstacles liés au fait de se déplacer en tant que femmes. Et comme on peut s'en douter, même si elles sont peu visibles, ces femmes s'entraident, s'organisent, résistent ensemble, créent des espaces de rencontre, de soutien, de partage et de lutte.
We are tired. We are not safe. We are suffering like a foreigner. We need to go.
Beaucoup de femmes qui traversent la mer Égée se retrouvent dans des camps de réfugiés surpeuplés, comme celui de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Pour vous donner une idée, ce camp, avant d'être détruit par un incendie en septembre 2020, était en surcapacité de plus de 500%. Dans ce type de camp, l'accès aux besoins les plus élémentaires comme l'eau potable, l'électricité, le logement, les soins médicaux et la sécurité n'est évidemment pas assuré. Les premières victimes de ces conditions de vie sont les femmes. Les femmes qui arrivent, même seules par exemple, doivent cohabiter avec des hommes dans des tentes. Des ONG ont aussi dénoncé que plusieurs d'entre elles préfèrent porter des couches pour adultes la nuit plutôt que de se rendre dans les rares toilettes du camp.
Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We need to go.
Le 30 janvier 2020, un groupe d'une quinzaine de femmes afghanes a organisé une manifestation à Mytilène, la capitale de Lesbos, pour protester contre les horribles conditions de vie dans le camp de Moria.
We need freedom. We need to be free.
Environ 450 femmes et enfants, d'âge et de nationalités différentes, sont descendus dans la rue et ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures. Toutes les femmes contre la Moria. Femmes solidaires, Moria est un enfer pour les femmes et stop à toute violence contre les femmes, était inscrit sur certains de nombreux panneaux, tandis que la foule scandait « Assadi !» Liberté en farsi, en levant les poings. De nombreuses femmes ont gardé leur visage caché, derrière des hijabs, des écharpes volumineuses et des masques chirurgicaux pour dissimuler leur identité et éviter une expulsion immédiate par les autorités grecques. Voilà, Chronique Amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette édition de Chronique Amère avec des pensées de solidarité. Solidarité avec une demandeuse d'asile afghane de 26 ans, enceinte de 8 mois, qui a tenté de s'immoler par le feu dimanche 21 février dans le camp de Kara Tepe à Lesbos. Elle a expliqué qu'elle et sa famille devaient être transférées en Allemagne, mais que l'opération a été annulée au dernier moment. Elle est poursuivie pour incendie volontaire. Des pensées de solidarité avec celles qui luttent pour partir, celles qui luttent tout au long de leur voyage, celles qui luttent pour que d'autres partent, celles qui luttent quand elles arrivent, celles qui luttent pour que d'autres arrivent. Des pensées de solidarité avec les femmes qui sont arrivées en Europe où elles sont confrontées, de nouveau, aux violences policières, administratives et institutionnelles. Des pensées de solidarité pour les personnes minorisées en mouvement, des enfants, des personnes LGBTQIA, dont on parlera certainement dans d'autres émissions de Chronique Amère. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusée, qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. On y parlera de la frontière méditerranéenne en situation de Covid. En attendant, main sur le cœur et point levé. Spex.